Radio-Canada, audio.
Quand ma sœur m'a demandé si j'étais plus indulgente envers moi-même depuis mon diagnostic, en repensant à des erreurs de parcours ou à des échecs de mon passé, il y a un questionnement important qui est ressorti dans ma réponse.
Je pense que je suis vraiment plus indulgente par rapport avec moi-même, en effet. Puis, en même temps, j'ai comme un deuil aussi. Puis c'est ça, le sujet du balado, c'est est-ce que c'est important de diagnostiquer? Est-ce que c'est important de diagnostiquer le plus tôt possible? Est-ce que ça change quelque chose? Puis des fois, je repense à ça aurait été quoi si je l'avais su plus tôt? Puis il y a plein de choses qui me viennent en tête. Premièrement, je me dis peut-être que ça aurait été pire.
À l'époque où j'étais enfant, comme la majorité de la population n'était pas encore bien renseignée sur la neurodivergence et toutes ses subtilités, ça ne m'aurait pas nécessairement aidée, en effet. Puis ma sœur Mélanie est bien d'accord là-dessus.
Parce que c'est sûr que si tes parents ne veulent pas ça pour toi, puis ils ont peur de ce mot-là, puis ils ont peur de ce diagnostic-là, puis ils sont dans le rejet de ça, je pense que ça peut être pire, en effet. Mais si tu es dans un environnement qui est accueillant, qui est accommodant, je pense que ça peut juste être mieux. Je pense que ça devrait juste être mieux.
Apparaître, la neurodivergence invisible. Épisode 4, ajuster l'éclairage. Moi, comme je l'ai expliqué dans le prologue, c'est une personne que je connaissais pas. Une femme abonnée à mes réseaux sociaux qui m'a mise sur la piste de la neurodivergence quand j'avais 35 ans. C'est une avenue que j'avais jamais envisagée, un sujet qui était même inconnu pour moi. Après des années de quête, j'ai finalement eu accès à cette clé-là qui me permettrait de mieux me comprendre puis de jeter des nouvelles bases dans ma vie. Pour tout vous dire, 2 ans plus tard, j'ai pas encore trouvé de point négatif au fait de savoir que je suis autiste et TDAH. Au contraire. À 40 ans, Isabelle non plus avait jamais soupçonné qu'elle pouvait être neurodivergente. Dans son cas, c'est un vieil ami, qui avait d'ailleurs un doctorat en psychologie, qui lui a mis la puce à l'oreille alors qu'elle traversait une crise majeure dans sa vie de couple. Malgré ses doutes, elle s'est laissée convaincre d'aller se faire évaluer.
J'ai le rendez-vous avec le professionnel qui va faire une entrevue, qui va poser des questions à mon conjoint, qui va me poser des questions. Puis je le vois dans sa face que c'est clair, là. Puis là, moi, je me dis non, c'est pas ça. Tu sais, je suis vraiment dans le gros déni. Je me dis non, c'est pas ça, pas en tout. Là. J'hallucine. Je m'invente des histoires. Je veux me faire croire que ça va arriver, puis ça va être la réponse à tous mes problèmes. Puis je me souviens qu'à la fin de l'entrevue, il me dit j'ai aucun doute. Madame, vous êtes autiste. Puis je me souviens qu'il n'y a plus rien après. Il continuait de parler, mon chum parlait avec lui, mais je suis plus là. Puis je me disais, mais ça marche pas. Puis là, je repassais tout ce que je savais de l'autisme. Mais je peux pas être autiste, ça ne se peut pas. Je suis comme trop fonctionnelle, je vais avoir 40 ans, là. J'ai des enfants, j'ai une job stable, je suis toujours en relation avec les autres, ça va pas du tout avec l'autisme qu'on imagine, qu'on n'est pas capable d'avoir des relations avec les autres. Mais
c'est comme un peu le syndrome de l'imposteur.
Ah,
là.
Complètement.
Tu sais, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça aussi parce que moi aussi, c'est une personne qui m'a mise sur cette piste-là alors que j'y avais jamais, jamais, jamais pensé de toute ma vie parce que, justement, je savais pas c'était quoi. Mm-hmm. Puis après ça, là, tu lis des trucs, puis là, tu dis, je me reconnais, mais non, ça se peut pas. Puis là, après ça, tu te le fais dire par un professionnel. Puis là, t'es comme, mais non, ça se peut pas. Puis là, t'es proche. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai appris à ma sœur que j'avais ce diagnostic-là, elle m'a dit, pour moi, ça fait du sens. Tu sais, elle m'a dit, pour moi, il y a aucun doute. Puis elle me le répète souvent parce que je suis souvent en train de dire, je pense que j'y ai pensé finalement, puis je pense pas ça.
Moi, ça a duré une bonne année, puis même récemment, je sais plus trop pourquoi. Puis j'ai dit à mon chum, peut-être que je le suis pas, finalement. Mon chum, regarde, on retourne pas là. T'es autiste, point final.
Mais je suis curieuse de savoir, parce que tu disais que ça allait vraiment pas dans ta relation.
Non.
Est-ce que tu as l'impression que cette espèce de point tournant-là dans ta relation était une conséquence de cette neurodivergence-là que tu avais, que tu savais pas?
Ouais. Complètement. Parce que moi, j'étais tout le temps épuisée. beaucoup épuisé fait qu'on est moins patient, on est moins tolérant, on pogne les nerfs plus. Donc, avec le recul, je me rends compte que j'étais très agressive au retour à la maison, ce que je faisais pas au travail parce que c'était pas admissible. Fait qu'il y avait la Isabelle au travail, Isabelle à la maison. Fait qu'au travail, je donnais tout. Puis à la maison, ben c'est mon refuge, c'est mon lieu à moi. Fait que vous me prenez comme vous me prenez, puis s'il reste plus rien, ben il reste plus rien. Donc, un conjoint qui vit avec quelqu'un comme ça, c'est pas nécessairement évident. C'est vraiment un burn-out autistique parce que j'avais atteint ma limite de tout ce que je pouvais donner, mm-hmm. de tout ce que j'avais essayé de faire pendant...
toutes ces années-là.
Oui, exactement. Puis j'avais juste plus de gaz pour rien. Mm-hmm. Fait que c'était pas tant le travail, c'était vraiment... c'est ça, c'est l'accumulation des années qui a fait ça. Donc, j'étais très, très, très éteinte, très, très agressive, très intolérante, très impatiente. Donc, j'avais de l'air... En fait, mon chum avait parlé justement à notre ami commun que j'étais quelqu'un de très narcissique et très égocentrique. Puis, honnêtement, encore à ce jour, puis je lui ai dit, pas immédiatement après mon diagnostic, mais dans les années qui ont suivi, je sais pas comment t'as fait pour m'endurer puis rester. Si j'étais pas allée chercher une explication qui pouvait justifier mes comportements, que c'était pas que j'étais égoïste, c'était pas que j'étais narcissique, c'était pas que je l'aimais pas, c'était pas que je voulais juste tout prendre puis rien donner, je pense que ça se serait arrêté là. Fait que ça a comme sauvé notre couple, notre famille, notre cellule.
Est-ce que le diagnostic a changé ton approche? Parce que là, tu te faisais dire t'es égoïste, t'es narcissique, mais c'est pas ça vraiment les mots. En fait, ça a l'air, ça apparaît de cette façon-là, mais c'est pas le bon lexique, c'est ça. Dans le fond, t'étais en surcharge.
Oui.
D'avoir ces mots-là maintenant, est-ce que ça change quelque chose dans le quotidien?
Ça change que je sais comment je fonctionne. Donc, j'essaie de plus tomber dans cette zone-là. Puis de l'autre côté, mon chum, ses attentes sont modifiées, puis il le sait maintenant. Si je vais prendre le Costco.
C'est trop d'informations.
Ah, c'est trop de monde, trop d'odeurs, trop de bruit, trop de lumière. C'est juste trop. J'y pense, puis je trouve ça épuisant. Mais tu sais, mon chum, il va le savoir que si on est dans le Costco, puis qu'à un moment donné, je fais comme, OK, je m'en vais. Des fois, je dis rien, je fais comme, OK, puis il me voit partir, puis il sait.
Il sait.
Il se choque plus. Tu sais, il n'y a plus le « mais pourquoi? Attends un peu, on est presque rendu à la caisse. » C'est comme « vas-y ». Puis même des fois, il va me regarder, il dit « si tu veux y aller dans l'auto, vas-y, puis je vais aller te rejoindre. »
Parce qu'il sait que c'est pas parce que tu veux pas, mais parce que tu peux pas.
Puis c'est parce que si je reste là, il sait qu'après, le coût à payer est trop grand.
Les surcharges cognitives dans les lieux publics où il y a trop de stimuli, Blanche connaît ça elle aussi. Mais depuis qu'elle a son diagnostic, elle essaie d'être plus indulgente envers elle-même.
Dans le cas précis, vraiment, d'aller magasiner des vêtements, là, qui est comme une activité qui est supposée d'être ludique entre amis, que c'est positif. Après, t'es content une fois que t'as fait tes achats et tout, mais j'ai un gros blocage, mais je trouve ça fou. Pourquoi je suis pas capable de faire une chose que tout le monde est capable de faire? Pourquoi je peux pas en parler? Parce que ça semble ridicule et démesuré et vraiment difficile à comprendre. Et tu sais que ça se reproduit de la même façon à chaque fois. Puis des fois, tu commences à te dire, c'est de ma faute, c'est moi qui me donne pas les moyens de régler cette situation.
Ça enlève un peu de la confiance en soi aussi,
j'imagine. Oui, exactement. Parce que j'arrive à me convaincre que j'ai un manque de volonté et non une réelle détresse.
Est-ce que le diagnostic t'aide à pas aller dans ces zones-là?
Je pense relativiser, mais après ça, ça vient avec une autre peur de toujours tout remettre là-dessus. Est-ce que je vais vraiment justifier tous mes comportements et toutes mes lacunes là-dessus? On veut pas tomber là-dedans parce que ça laisse moins place à l'amélioration. Fait que ça devient un nouveau défi quand même de naviguer entre à quel moment il faut que je relativise et à quel moment il faut que, malgré mes défis, je me mette en action, tu sais.
La peur de tout mettre sur le dos de son diagnostic, ou même le constat qu'on le fait un peu des fois, c'est un truc que plusieurs des femmes qu'on a rencontrées ont en commun, y compris moi. C'est aussi un argument qu'utilisent certaines personnes réfractaires à la nouvelle vague de diagnostics. qu'il y aurait un risque que les personnes arrêtent de travailler sur leurs défis en prenant leurs conditions comme une excuse ou une fatalité. Effectivement, c'est important, je pense, d'essayer de bien équilibrer notre approche. D'un côté, d'accepter nos forces et nos faiblesses, mais d'un autre, de voir le processus diagnostique comme un point de départ vers l'amélioration, la recherche d'outils, comme la thérapie ou les accommodements, et le développement de stratégies. La neuropsychologue Éliane Chevrier le souligne super bien.
C'est une quête. Est-ce que c'est identitaire? Je pense que pour certaines personnes, oui, honnêtement. Mm-hmm. On veut se comprendre, on veut mettre des choses en place, parce que le but ultime, dans le sens avoir une évaluation, c'est de comprendre ce qu'on est, mais c'est aussi de dire, OK, mais je fais quoi après? C'est quoi l'étape 2, le plan de match? Par exemple, pourquoi j'ai réagi de cette façon-là? Pourquoi j'ai agi de cette façon-là? Pourquoi j'ai eu de la misère là-dedans? OK, bien, je change peut-être ma lunette ou je l'ajuste. Je me vois pas exactement de la même façon ou je mets mes limites ou je demande à mettre mes limites ou je dis non ou je me respecte plus.
J'ai une capacité d'adaptation là, incroyable. C'est une force, tu sais. Mais après que j'ai tout donné ça, quand je reviens, là, boum! Tu sais, la théorie des cuillères, là, je ne sais pas comment ils l'appellent. Là, je
crois c'est intéressant, que c'est, j'ai jamais entendu.
C'est comme si, dans une journée, on en a 15, mettons.
Oui.
Ben, les gens, ils vont être capables d'en donner une, deux. Mais nous, là, on va toutes les passer dans les trois premières heures, nos 15 cuillères. Fait que le reste de la journée, on est brûlés parce qu'on a tout donné dans le début. Tu sais, je l'ai compris que ça me demande. Fait que, tu sais, maintenant, je suis capable de structurer. Tu sais, je le dis, là, en fin de semaine, on reçoit des gens chez nous. Je le sais déjà que dimanche soir, c'est comme... Oublie-moi, moi, je prends rien, je vais avoir tout donné, tu sais. Après cette entrevue-là, je ne serais pas capable de faire une deuxième tâche, de me concentrer, de cuisiner. Quand j'ai connu mon conjoint, c'est sûr qu'il y a eu une période d'ajustement, là, parce que lui, il ne comprenait pas certaines choses. Il n'avait jamais été avec une personne avec un TDAH. Puis il ne comprenait pas que quand j'avais passé une journée au travail, que j'avais besoin de ma bulle, je n'avais pas envie d'y parler. Puis que quand j'avais un intérêt, je suis du genre à y envoyer 15 articles scientifiques ou une photo, puis, ou de dire « écoute, écoute ». Puis là, je n'ai même pas regardé s'il est en train de faire d'autres choses.
Oh, mon Dieu!
Lui, il était dans la routine. Puis des fois, il me dit, tu sais, Véro, tu l'aimes, la routine aussi. T'sais? Puis moi, j'étais comme, non, je suis pas une fille. T'sais, on dirait que je criais au meurtre que j'étais une fille, que j'avais besoin de créativité. Mais dans le fond, il a raison. J'ai besoin d'une routine. J'ai besoin de faire mon 8 heures par nuit parce que si je le fais pas, mon TDAH est pire. T'sais, fait qu'il m'a amené cette structure-là. T'sais, il a compris que... Il sait que des fois, je vais faire du ménage jusqu'à 2 heures du matin puis que c'est comme ça. Quand je vais le faire vraiment bien. Il me connaît comme ça. Il sait que justement, j'ai des stratégies, mais c'est en apprenant à se connaître. Mais il faut de l'ouverture pour se connaître.
Exactement.
J'ai comme un groupe d'amis très extravertis et ça a souvent causé des situations où je me sentais en marge parce que c'est comme si leur batterie est vraiment plus élevée que la mienne. Donc, ils se voient à une fréquence que je peux vraiment pas suivre. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de comme accepter ça. J'apprécie mes moments en groupe et je veux en avoir et ça me fait plaisir, mais j'ai vraiment besoin de mes moments à moi, donc je prends un peu plus mon rythme puis je suis juste vraiment mieux là-dedans.
Isabelle, Blanche et Véronique ont toutes amené un point super important depuis le début de l'épisode, puis je le vis un peu de la même manière qu'elles. Elles ont compris qu'elles ont un besoin plus grand que la moyenne de préserver leur bulle. Ce besoin de repos social-là, c'est important dans le processus d'apprendre à l'accepter. C'est pas facile, mais le diagnostic aide souvent à le faire. Andréane a compris ça, elle aussi. Puis depuis ce moment-là, elle s'est libérée de la culpabilité.
Je pense qu'à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un crash où je suis pas fonctionnelle parce que je brûle la batterie, sinon... Il faut au moins une journée où c'est...
Tu fais rien.
Je fais rien. Si j'ai une énergie, puis j'ai une bulle au cerveau parce que j'ai aussi un TDAH, là, tout d'un coup, je fais du ménage. Ou souvent, c'est réorganiser ma chambre à 10 heures le soir, là.
Parmi les outils que les femmes neurodivergentes peuvent aller chercher, il y a la thérapie, bien sûr, mais il y a aussi la prise de médication. Les neurostimulants, les anxiolytiques, les antidépresseurs, entre autres. Pour certaines, ça aide, mais pour d'autres, moins. Puis c'est un sujet qui est quand même assez délicat, dont les spécialistes débattent souvent dans l'espace public. Évidemment, on ne serait pas légitime ici de nous prononcer sur les pour et les contre, mais dans le cas précis de Véronique, la médication pour le TDAH a été d'une grande aide.
Quand j'ai commencé la médication, c'était comme si on éteignait toutes les télévisions dans ma tête. c'est pas miraculeux, là. Ça prend une thérapie à travers ça, c'est un paquet de facteurs, là. Mais pour moi, je me suis enfin sentie comme si j'atterrissais. Mais c'est sûr que moi, j'ai trouvé que ça m'a enlevé une certaine créativité.
Ah, c'est intéressant.
Tu sais, une certaine spontanéité parfois aussi. Mais en même temps, c'est bien parce que ça contrebalance pour justement couper la parole ou si ça va contrebalancer sur plein d'autres choses. Je prends du recul puis je regarde. Là, quand j'ai reçu mon avis de renouvellement de permis puis que je n'avais pas perdu de points, quand j'ai vu que j'étais capable de faire des choses qu'avant qui me demandaient toutes mes énergies, je suis devenue beaucoup plus structurée. Tu sais, je l'ai vu dans ma gestion financière, Colin. Fait que, tu sais, maintenant que j'en prends, je m'en passerai pas.
Au-delà de l'aide médicale et professionnelle, il y a un autre facteur qui semble faire une grande différence sur la qualité de vie des femmes qu'on a rencontrées. L'acceptation et le soutien de l'entourage. Isabelle et Véronique l'ont évoqué plus tôt en parlant de leur conjoint. Blanche et Andréane nous ont aussi dit qu'elles se sentaient soutenues par leurs proches.
J'en ai parlé ouvertement avec les gens dans mon entourage. Ça a été très bien reçu, puis je pense que les gens y ont tout de suite vu ce qu'ils ne voyaient pas avant. Genre mes amis qui attendent après moi, qui disent « Ah, elle est en l'air, elle est tellement TDAH, ha, ha, ha. » Mais c'est juste, c'est tellement de la validation dans le sens où tu te sens accepté, tu te sens validé, puis tu comprends que c'est vraiment pas dramatique.
C'est vraiment quand j'ai eu mon diagnostic que des conversations que j'avais avec ma mère depuis des années qu'elle comprenait pas. Puis c'est en ayant un diagnostic qu'elle a fait « Oh! »
Est-ce que tu as des gens autour de toi qui comprennent t'es qui?
Oui.
Parce que t'es vraiment... T'es pas bizarre, puis t'es pas aimable, puis t'es pas étrange. Puis moi, je t'écoute, puis je me reconnais dans tout ce que tu dis, puis je trouve ça tellement beau. T'es qui, genre?
Merci. Oui, ça m'a pris du temps à trouver mes gens vraiment qui sont restés. J'ai beaucoup été l'ami bouche-trou, tu sais, au secondaire. Moi, j'étais l'ami que les parents aimaient parce que je suis les consignes. Fait que c'était facile, les gens m'invitaient parce que ça faisait plaisir à leurs parents. Fait que ma meilleure amie, ça a été ma coloc. Elle s'avère aussi une neurodivergente. Ça l'aide énormément.
Ben
j'ai découvert. On s'assoyait les deux. Et là, c'était je t'aime, mais je te parle plus. On coexistait dans le même univers, puis on se parlait pas. Puis c'était, tu peux me parler, mais je t'écoute pas.
Mais vous le nommiez comme ça?
Oui!
Je trouve ça extraordinaire. Je commence tout juste à faire ça, là, puis j'ai 37 ans. Là. Je commence tout juste à dire, j'ai pas envie de m'en aller, mais je suis plus capable. Je vais être sur mon téléphone. Je vous écoute plus, mais je reste dans la même pièce que vous parce que j'ai envie d'être avec vous, mais je peux plus vous écouter.
Mais j'ai fait ça des années avec ma famille. Je m'assoyais sur le sofa parce que je voulais être dans la famille, mais j'étais plus capable d'interagir. Je veux être dans l'énergie, mais je peux pas participer. Je veux être en parallèle.
Pour différentes raisons, ça peut aussi arriver que l'entourage ait de la difficulté à comprendre. Milka se doutait qu'elle avait un TDAH depuis sa jeune vingtaine, mais comme elle craignait la désapprobation de ses parents, elle a retardé sa démarche diagnostique de plusieurs années. Le fait d'avoir attendu a eu des conséquences sur sa vie, surtout au travail.
Moi, j'ai changé beaucoup de travail parce que la nouveauté, je trouve que c'est cool au début, puis je trouve que c'est plate, donc là, je change... Au début, je vivais bien avec ça, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faudrait que j'aie un peu de stabilité là-dedans. Surtout quand j'ai commencé à avoir des enfants, je me suis dit, ouh! Ce qui me sauvait, c'est que mon copain, lui, il est très stable, donc je pouvais me reposer sur ça. Mais à un moment donné, je me suis dit que non, il faut que j'aie un peu de stabilité. Puis je suis devenue résidente permanente, donc là, j'ai eu beaucoup de portes ouvertes pour plein d'emplois, donc là, j'ai décidé de travailler dans mon domaine d'études. Puis là, il y avait beaucoup de responsabilités. Le syndrome d'imposteur était sur le piton parce que je me disais, mais je ne serais pas capable de faire tout ça. Il faut être très organisé, très, très organisé. Puis ce n'est pas moi du tout. Puis je n'étais pas dans un environnement qui était propice aussi aux neurodivergents. Pas du tout. C'était vraiment pas propice du tout. Ce qui fait que c'était vraiment too much. Je ne suis pas une personne... qui fait des attaques paniques ou quoi que ce soit, mais c'était rendu que je longeais les murs, puis genre j'avais des attaques paniques. Donc là, j'étais comme, OK, on va prendre une pause. Ouais. Burn out!
Ben oui, c'est
ça. Le travail que je fais aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires, mais l'environnement, puis le milieu dans lequel je suis, je peux être 100% moi-même. Puis j'ai une chef d'équipe extraordinaire qui me valorise tout le temps.
Ça me donne des frissons, je trouve ça trop beau. Puis tes parents, eux, comment ils ont réagi finalement à ton diagnostic?
Alors, moi, j'ai été diagnostiquée l'été passé. Je l'ai dit à mes parents. J'ai plus de facilité à parler à mes parents que quand j'étais enfant. Donc, tu sais, je suis comme, non, là, on va passer, genre, les formulaires et on va les passer tous ensemble, OK? Puis mon père est comme, oui, mais pourquoi tu vas chercher cette information? Il comprend pas le bénéfice là-dedans. Je peux pas parler pour toutes les communautés, mais dans ma réalité, dans la culture de mes parents, quand il y a des personnes que leur famille fuit des situations qui sont très traumatisantes, être vulnérable, c'est pas une option. Surtout, en plus, quand tes parents ont fait plein de sacrifices, la priorité, c'est pas toi qui as un TDAH. La priorité, c'est comme, il faut qu'on ait à manger, il faut que vous m'écoutiez, puis en plus, il faut qu'on s'assimile. Tu sais, mes parents, ils m'aiment. Donc, leur but, c'est toujours d'améliorer notre situation. Puis c'est toujours d'améliorer, comme de donner le meilleur pour ton enfant. Okay? Donc, pour eux, leur vision, c'était plutôt comme on focus sur les études. Ça se peut qu'il y ait des problèmes, mais c'est pas... c'est un peu trivial, cette affaire-là. Mm-hmm. Puis ma mère, elle est plus un peu dans un déni. Elle est plus en mode, mais non, Milka, t'es pas TDAH parce que t'es intelligente. Et puis, tu sais, oui, des fois, t'es pas tes affaires, mais t'es juste, t'es fainéante ou genre.
Mais ça, c'est tellement de gens qui pensent ça, là. C'est pas. Oui. Je veux dire, la croyance populaire, c'est ça.
Je dis, oui, mais t'es pas obligée de souffrir parce que tous ces gymnastiques pour réussir à rentrer dans certaines mesures, tu sais, on se brûle.
On veut se comprendre, puis on souffre. Bon, est-ce que maintenant, on dit, « Hey, quand tu souffres, t'as le droit de pas souffrir. T'es pas obligé de rester pogné avec ta souffrance. Comprends-toi et aide-toi. » Est-ce qu'on restait plus pogné avec notre souffrance avant ou avec notre malheur ou avec notre situation? Donc, bon, ben, hey, je suis de même, je suis pogné de même, je suis faite de même, puis tant pis pour moi. Mais là, maintenant, je peux peut-être m'en sortir.
Je sais que vous diagnostiquez des enfants, oui. Des ados et des
oui,
adultes.
Exactement.
Est-ce que vous voyez une différence par rapport au moment auquel le diagnostic est posé?
Ben oui, ça fait une différence. De savoir un peu ce qu'on a, ça a un impact et qui va être différent selon l'âge où on le sait. Quand les enfants consultent, c'est les parents qui consultent pour leurs enfants. On répond aux besoins d'enfants, mais c'est pas sa quête à la personne elle-même. Mais plus la personne vieillit, ado, adulte, jeune adulte ou plus tard, souvent ça se transforme, ça évolue un peu et les questionnements, la personne commence à se les approprier de plus en plus. Alors, chez l'adolescent, l'adulte, l'évaluation ou l'identification du fonctionnement ou du diagnostic a des fois en soi un impact plus visible ou plus évident que chez l'enfant de le savoir.
C'est vraiment intéressant, ça. Un enfant qui ne sait pas qu'il est neuroatypique puis qui est relativement fonctionnel ne va pas nécessairement se poser ces questions-là avant l'adolescence ou plus tard dans la vie. Ou même peut-être jamais si ça se passe bien. Mais quand même, toutes les femmes à qui j'ai parlé se la posent la question. Ça aurait été quoi ma vie si je l'avais su quand j'étais enfant?
Je sais pas si ça aurait été mieux non plus parce que j'aurais été peut-être stigmatisée. Mm-hmm. Je sais vraiment pas. Dans le contexte dans lequel j'y vais, j'en sais rien. Mm-hmm. Au Québec, peut-être que ce serait différent par contre.
Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait quand même pu avoir des éléments positifs avec un diagnostic en bas âge, même mm-hmm. à l'époque à laquelle tu étais enfant?
Je pense que oui.
Ouais?
Personnellement, j'aurais aimé le savoir plus tôt. Ça m'aurait permis de comprendre beaucoup de choses et beaucoup de comportements que j'avais. Ça m'aurait aussi aidé pour ma confiance en moi. moi, mon enfant, ça se peut très bien qu'il ait aussi un TDAH parce qu'il y en a aussi dans la famille de mon copain. Donc, ça se peut très bien qu'il ait.
Est-ce que tu veux...
Moi, je vais le chercher, le diagnostic.
Ouais.
En définitive. Pourquoi je vais le chercher? C'est parce qu'il y aura plus de services, première des choses. Sachant aussi les connaissances que j'ai, c'est sûr que ça va m'aider dans comment je vais interagir avec mon fils. Mais, tu sais... Si moi, je n'avais pas eu le diagnostic, peut-être que le fait que de voir mon fils comme ça, je me serais posé plein de questions. En fait, j'aurais juste continué ce cycle-là. Donc, le fait d'être diagnostiqué, ça fait en sorte que je suis plus alerte à ce que lui, il vit. Puis, ben, j'espère en tout cas que je serai un meilleur allié.
L'apprendre, ça vient un petit peu guérir ton petit enfant intérieur là, qui se tape sur la tête. Donc, c'est qu'il y a comme un processus après d'être diagnostiqué de se réconcilier avec soi-même. Si tu as un diagnostic très jeune, tu grandis avec donc peut-être plus d'indulgence. Puis je pense que c'est là la pertinence un peu de se connaître puis se comprendre. Même si j'ai eu mon diagnostic en étant presque une adulte, donc à 17 ans, et que donc j'ai passé toute mon enfance quand même à errer à ce niveau-là, je suis quand même très chanceuse de l'avoir au commencement de ma vie d'adulte comparée à énormément de femmes qui se sont cherchées beaucoup à un âge où tu commences à mieux te comprendre et mieux te connaître et à établir vraiment des bases solides sur qui tu es. Puis il y a quand même une énorme partie de toi qui est en errance. Donc je suis vraiment chanceuse de me dire que j'ai déjà cette boîte à outils-là avec moi, puis je peux commencer à l'utiliser quand même à un moment super crucial de ma vie.
T'sais, si j'ôte la variable de l'époque, puis je parle juste par rapport à moi, l'avoir su plus tôt, mettons au début de l'adolescence, je pense que ça m'aurait aidé à m'aimer. Je vais devenir émotive.
C'est vrai que ça peut être vraiment difficile à vivre, puis même s'apparenter à un processus de deuil. C'est aussi ce que Véronique a vécu.
Mais c'est sûr que je pense que dans la grande partie d'un diagnostic tardif, c'est le deuil de qui tu aurais pu être, qui, si tu l'avais eu avant, mais que tu le sauras jamais. T'sais, hier, j'étais au souper, je parlais de, justement de l'enregistrement d'aujourd'hui, puis je demandais à ma fille, t'sais, qui est plus âgée, je lui disais, t'sais, qu'est-ce que pour toi, t'sais, d'avoir, parce qu'elle m'a connue encore plus, t'sais, de avant et après, puis elle me dit, j'étais fâchée après toi qu'avant, puis là, je suis plus fâchée. T'étais fâchée, pourquoi? Bien, parce qu'à cause de toi, on arrivait toujours en retard à mes cours. C'est ça. Mais j'étais la maman... drôle, tu sais, j'étais la maman super créative, mais oui, c'est vrai que j'arrivais pas. Fait que je suis sûre que si aujourd'hui on regarde, si on aidait un parent TDAH dans sa parentalité, l'impact, le ressac serait...
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Pour tout le noyau,
pour
fait.
Tout le monde, tu sais. Est-ce que mes relations se seraient... Tu sais, c'est toutes des questions quand je parle de deuil. T'sais, est-ce que mes relations auraient duré si j'avais été diagnostiquée? Est-ce que j'aurais fini l'université? Tu sais, je regarde aujourd'hui le travail que j'ai, même si j'ai même pas fini mon bac, puis que des gens avec qui je travaille ont des maîtrises, puis que j'ai réussi à me rendre là pareil, la fille qui réussissait pas au secondaire, qui manquait des cours, tu sais, puis qui échouait souvent, puis je regarde mes bulletins, puis tu sais, je me dis ben c'est pas si pire.
Hey, tu t'en es tellement bien sortie, puis justement, c'est tellement de résilience, c'est comme la capacité d'adaptation, travailler plus fort que les autres, alors que dans notre tête, on se dit qu'on est poche. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est à quel point, en réalité, on travaille plus, puis dans notre fort intérieur, on a l'impression qu'on est faible, puis qu'on n'est pas capable, puis qu'on est paresseuse. Pis c'est ça, en fait, qui me fait de la peine, puis c'est ça qui me fait le plus dire que c'est important de le savoir.
C'est important, oui.
On ne peut pas savoir ce qu'on serait devenu, mais on peut parfois vivre avec des regrets, avoir l'impression qu'on a perdu des années de vie qu'on ne pourra jamais retrouver ou qu'on a contribué à briser des liens importants qui auraient pu être préservés.
Je ne saurais jamais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais justement eu un diagnostic avant, mais les conséquences, je sais qu'il y en a eu. Puis je ne peux pas les ignorer, que ce soit sur les membres de ma famille, que ce soit sur mes amis, que ce soit sur mes anciens conjoints. Quand on parle du deuil, là, j'ai plein de personnes que j'aurais le goût d'aller leur dire « Je suis désolée encore, on s'excuse encore, mais je suis désolée. »
Moi, j'ai écrit à toutes mes ex. C'est comme moi, ça m'a fait du bien, en fait. Je sais pas, eux, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, sûrement rien. Mais pour moi, en fait, c'est une façon de prendre mes responsabilités. Mm-hmm. C'est comme j'ai été poche à certains égards. C'était pas de ma faute, mais maintenant, je le sais. Puis je m'engage à faire mieux pour la prochaine fois, tu sais.
Oui.
Plus on travaille sur ce balado, et plus il y a une chose qui m'apparaît claire. Quand j'échange avec nos protagonistes, je réalise que pour chacune d'entre elles, il y a un avant et un après le diagnostic.
Si j'avais une chose à dire, c'est... toutes les personnes qui sont non diagnostiquées, c'est comme vous savez pas tout le bonheur que ça fait de l'être. Depuis que je me suis fait diagnostiquer, j'aime ça me laisser aller un peu. Puis peut-être plus extérioriser mon monologue intérieur. J'ai l'impression que ça fait du bien. Puis ça me rend un peu peut-être clown, j'ai envie de dire, là, genre, maintenant que je suis avec mes amis, de me dire, justement, la chanson que j'ai dans la tête, je vais la chanter, puis ça fait rire, puis...
Puis ça, c'est depuis que tu as eu le diagnostic.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc, tu te sens mieux, finalement. Tu sens que tu peux être toi-même plus qu'avant?
Plus, tu sais, après ça, j'irais pas à dire que c'est sur tous les aspects, puis le masking est encore vraiment présent, mais juste quand je suis avec les personnes que j'aime et tout, un peu de me laisser aller, genre, puis d'être plus comme Bob Lee dans mon TDAH au lieu d'essayer de le contenir. Tu sais, j'aurais envie de dire depuis mon diagnostic probablement que ça paraît plus, puis je sais pas si c'est un mélange de « je le sais, donc je le fais », qui est un peu comme placebo, ou juste réellement, je me dis... ben, je laisse cette partie de moi vivre, puis c'est correct.
J'ai l'impression que tous les morceaux du casse-tête sont là. Mais là, je suis beaucoup dans un aspect où je m'arrête à... c'est ça mon casse-tête, fait que c'est ça mes limites. À un moment donné, je suis pas juste mes limites, puis il faut que j'aille au-delà des limites. Ça, c'est encore difficile pour moi. Là, c'est rendu ma béquille. C'est facile de mettre ça sur le dos de ton diagnostic, puis là, c'est comme, OK, une prochaine étape, j'ai un petit cercle d'amis... très, très petit, mais avec des gens que je connais, puis c'est mes vraies personnes, puis tout ça, mais je suis comme... ça serait le fun de pratiquer mes habiletés sociales dans d'autres contextes, puis je pense que je suis rendue à cette étape de vraiment de apprendre à vivre avec ces diagnostics-là et de vivre au-delà du diagnostic.
Ma relation avec mon conjoint aurait été complètement différente. Mon chum, il dit toujours, je suis ton safe zone, puis c'est vrai. Tu sais, je peux être 100 % moi-même. Bon, ils vont me traiter d'autiste, mais c'est correct. C'est un running gag qu'on a. Puis des fois, je dis, c'est ma carte autiste. Fait qu'il sait qu'il peut pas rien dire. Mais je peux quand même dire, je sais pas c'est quoi être heureuse, mais je pense que je le suis maintenant. C'est vraiment, je me sens légère. Puis j'ai des collègues de travail qui ne le savaient pas, qui le savent maintenant, d'autres qui l'ont su dès le début, qui me disent, ça paraît que t'es bien, t'es plus la même personne. Fait que, tu sais, juste pour ça, là, c'est correct, les personnes qui veulent pas aller se faire évaluer, mais pour moi, ça a sauvé une grande partie de ma vie. C'est pas ma vie, ça a sauvé mon couple, ça a sauvé ma famille.
Il y a des gens qui souffrent moins ou peu, et peut-être pas du tout, comme tout le monde en vie peut souffrir, là. C'est clair, là, que c'est pas tout le monde qui va se faire évaluer en neuropsychologie ou en psychiatrie ou chez le médecin ou quoi que ce soit, parce que si tu vas bien dans la vie, moi, je vais pas aller chez le cardiologue juste pour le fun, tu sais. Donc, si elle consulte, c'est parce qu'il y a un impact. Il y a un impact dans sa vie, concret, au niveau des apprentissages ou au niveau professionnel ou au niveau social ou de la santé mentale, la détresse ressentie.
T'es officiellement TDAH et HPI au potentiel intellectuel. Là, tu dis peut-être autisme.
Oui, exactement.
Est-ce que t'as besoin d'investiguer ça pour le moment ou est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin de l'investiguer éventuellement ou avec ce que t'as déjà comme information, tu sais que tu peux déjà avancer?
Je pense que oui, c'est ça la différence pour moi entre TDAH et autisme au niveau du diagnostic. C'est que la pertinence pour moi du diagnostic TDAH est lié à mon monde fonctionnel, là. Aller aux études, avoir un emploi, une famille peut-être, m'organiser dans ma vie, c'est crucial. Et le diagnostic de TDAH me donne, par exemple, dans le contexte académique, accès à des accommodements, tu sais, un ordinateur, du temps supplémentaire, tout ça. Donc, il me donne peut-être une petite chance d'atteindre mon propre plein potentiel. Si j'apprends à mieux naviguer mon monde fonctionnel, je vais avoir un poids qui va se libérer un peu de moi sur l'anxiété, le manque de confiance en soi lié à des performances que je juge affaiblies. C'est que j'ai l'impression des fois que j'arrive pas à suivre mes pensées et ça me crée un manque de confiance en moi parce que je pense que j'ai un meilleur potentiel que j'exploite pas. Donc, pour ça, diagnostic de TDAH, puis d'investiguer et d'apprendre des méthodes, des stratégies d'organisation et de prendre une médication, c'est super pertinent. La possibilité d'un diagnostic d'autisme, là, que autant que ça n'a pas été investigué plus loin, moi, je pourrais le faire 100%, je pense, là, de me remettre dans la démarche puis d'essayer de voir de ce côté-là. Mais le besoin est moins là. Pour moi, c'est une possibilité. Je sais que j'ai des traits. Je le suis peut-être TSA1 ou pas. Et dans tous les cas, j'assume là, qu'est-ce que ça a comme impact sur ma personnalité. Je me dirais juste d'essayer d'embrasser cette partie de moi. Ça, c'est très, très personnel là, comme quête. Et je peux continuer pour moi dans ma tête de le vivre et de l'explorer sans avoir besoin de diagnostic.
Le choix de ne pas se faire diagnostiquer, même si on a des soupçons, j'ai voulu en parler avec ma sœur. Mélanie puis moi, on se ressemble à tellement de niveaux, mais on a un point sur lequel on est différent. Malgré un passé commun, des traumas communs, un cerveau puis une carrière similaire, ma sœur, elle a toujours réussi à rester à flot, à garder son équilibre, contrairement à moi. Puis des fois, je me demande pourquoi.
Dans ta pré-entrevue, tu as parlé que toi aussi, tu ressentais que tu avais des traits de neurodivergence. Mmh. Tu n'as pas de diagnostic. Tu disais que tu n'avais pas besoin de mettre de mots nécessairement.
Ben là, peut-être qu'éventuellement, je vais le creuser, ça. Sauf que pour le moment, je me sens vraiment prise dans ma parentalité. je sens aussi que j'ai les outils. Je ne sais pas qu'est-ce que ça changerait, en fait, d'avoir un diagnostic, parce que, pour moi, je considère pas ça comme négatif. Je considère ça comme, à la limite, positif à bien des égards. Et puisque je me connais, je respecte le plus possible mes limites, ce qui fait que je me retrouve pas comme dans des situations de
surcharge.
De surcharge. Ben oui, là, mais comme je pense que c'est ça, c'est que mon gauge intérieur, il est quand même bon, puis que je m'écoute par rapport à ça.
Mais tu vois, c'est ça la différence entre toi puis moi, je pense, je réalise.
Peut-être, mais la psychologie, lunettes, c'est plus compliqué que ça. Il y a ta personnalité qui rentre dans l'équation. Il y a ce que tu as vécu dans l'enfance.
Ça, c'est super important, puis on pourra jamais le dire assez. La neurodivergence, ça nous définit pas entièrement. C'est une partie de nous, c'est le type de fonctionnement de notre cerveau, c'est en nous, mais on n'est pas que ça. On est aussi notre personnalité, notre éducation, nos goûts, nos talents, notre vécu, puis ce qu'on décide d'en faire.
La première des choses, c'est que je pense, il y a un gros travail à faire de sensibilisation pour que les gens comprennent c'est quoi.
Parce que les gens comprennent pas vraiment.
Non, ils comprennent c'est quoi dans les cas les plus difficiles, mais ils comprennent pas c'est quoi dans les cas les plus subtils, légers.
C'est ça, c'est flou, c'est confrontant.
Peut-être qu'il y a aussi une peur de devoir se dire qu'il faut qu'on accommode les gens, puis il faut qu'on fasse des efforts. Étant donné que c'est invisible, c'est comme si on se dit que c'est des caprices.
Mm-hmm.
C'est dans sa tête, il y a juste à faire un effort.
Mm.
Je pense que c'est vrai que dans certains cas, les efforts peuvent venir des deux côtés, mais des deux côtés.
Ma sœur a raison, puis ça fait partie des pistes de réflexion et de solutions qu'on va aborder dans le dernier épisode. On va se questionner sur la manière de faire une place à la neurodivergence dans la vie de tous les jours, notamment dans les milieux de travail. Et finalement, je vais faire un bilan de ce que j'ai acquis à la lumière de mes précieuses discussions avec les spécialistes et les femmes que j'ai rencontrées.
Dans le cadre de mon travail, je ne l'ai pas dit à tout le monde, pour plein de raisons. Ce n'est pas que j'ai honte. C'est, je ne veux pas que ça joue contre moi. Je ne veux pas que les gens partent quand ils ne me connaissent pas avec cette idée-là, parce qu'il y a tellement d'idées préconçues. C'est un risque,